présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, où 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre. Les ouvriers, au moins chez Renault, ne sont pas obligés d'en avoir une. Elle parle. J'ai bien envie de raccrocher. Il ouvre une petite boîte qui se trouve en face de lui. Prend un chocolat et le mange. Enfin, elle a fini. Quelle heure est-il ? 11 heures. Bon, en attendant d'aller manger chez Florent, je vais dépouiller mon courrier. À 16h, il quitte son bureau pour se faire mener chez sa maîtresse. À 20h, il entre chez lui. Sa femme l'attend, tout excité. Il n'aura pas le temps de dîner. Tant pis, il prendra un verre de lait. Pourtant, il a faim. Ah, les ouvriers de chez Renault, lorsqu'ils entrent chez eux, ils peuvent dîner au moins et se détendre. Moi, à 20h, il faut que je m'habille et mette des souliers vernis qui me font mal.
Non, rien.
Et me voici au milieu de tout ce monde. Tiens.
Alors, Nicole, qu'est-ce que tu as ?
Quels sont ces deux-là ?
Oh, rien de bien extraordinaire.
Je vais demander à ma femme.
Aussi quelques petites perles, des petits colliers, c'est tout.
Alors, si ce ne sont que quelques
perles, il y a plein de diamants.
De qui parles-tu, mon ami ?
Et aussi, il y a
ces deux-là,
une écharpe très jolie.
Oh, et Dieu, tout je ne les avais pas vus.
Des échecs.
Et puis encore quelques petites choses.
Quoi donc ?
Je suis sûr que sur la tête...
De la pâte pour les dents.
Une face notre fils.
Je préfère les pâtes de fouet.
Je vais le lui planter. Il en serait bien capable.
Et puis c'est une ville si divertissante.
Tiens, le voilà. Charles.
Vous savez, s'amuser, c'est autre chose. Moi, j'en ai marre de l'alcool.
Charles était l'un de l'homme, sans mince, bien.
Oui, c'est ça. C'est ainsi que les riches dépensent leur argent pour rester pauvres.
qui ressortait de lui, de son être,
crocodile, certaines qui ont de grosses dents.
Grandeur.
Non, merci beaucoup. Il ne faut pas toujours leur jeter la pierre.
Plutôt,
ils dépensent.
Certaines noblesses.
Ils dépensent. Tu as fait sûrement le bonheur de beaucoup de gens aujourd'hui, Nicole. Tu leur as permis de gagner leur vie, de vivre.
Ressemblait, à la des entreprises ne ressemblait ni à sa mère,
les chiffres d'affaires
son
ne
père,
font qu'augmenter.
Mais plutôt,
les hommes fabriquent
à l'amant de sa mère,
et puis leur mère avait aussi des millions et des millions de tubes dentifrice.
Il y avait de cela 22 ans. Non, mère, je ne connais pas ces deux jeunes gens-là. Je vais tout de même me renseigner. Marc et Florent étaient au buffet en train de se servir marmelade. Bonjour, qui êtes-vous ? Marc se retourna et lui dit : Et vous ? Moi, je suis le fils, le présumé fils officiel de la maison. Nous, nous sommes des invités bénévoles. Et nous avons faim, alors nous sommes rentrés.
Parfois, il
voilà.
me semble que tout est mort.
Oh, bien. Vous n'avez pas d'argent ?
Non, j'en ai tout le temps l'impression.
D'où venez-vous ? Où allez-vous ? Ce sera un peu long à vous expliquer. Pour ce qui est de l'argent, nous n'avons pas. Et nous n'en voulons pas. Bon, eh bien, je vais gérer tellement de ne pas savoir ou dormir ce soir. Après la soirée, nous monterons dans ma chambre. Cela intéressait Charles, car il aimait l'aventure, l'humour, et ces deux garçons n'étaient pas trop mal de leur personne.
With the tide and pull for the shore.
My mother and kisser and paddle some more. I need a paddle and paddle and home.
Soirée, en cachette de ses parents, et les fit monter dans sa chambre. C'était une chambre assez grande, propre, nette. Il y avait un lit à deux places, car Charles aimait prendre ses aises. Vous désirez boire quelque chose ? Non, merci, dit Marc. Comment vous appelez-vous ? Nous n'avons plus de nom, dit Florent. Oui, il faut que nous vous expliquions tout ça. Voilà. Nous avons décidé c'est de vivre en dehors du monde, au-delà du monde, n'important plus à l'espèce humaine. Ce qui fait que nous vivons sans loi ni foi. La morale, les lois, tout ceci n'existe plus pour nous. Nous refusons toutes les obligations de la société. Pas de nationalité, pas d'argent. Pour ce qui est du langage, nous ne parlons que très peu. Voilà en gros ce que nous sommes. Et nous voulons appartenir à personne. Nous n'avons ni famille, ni patrie, ni foi, ni loi. Nous vivons comme ça, par instinct. Bon, eh bien, il nous faut dormir maintenant, car demain matin, il faudra vous lever tôt. Se couchèrent tous les trois dans le même lit. Cela était un peu juste, mais ça n'empêchait pas Marc et de Florent de bien dormir. Charles couchait d'habitude avec un pyjama, mais ce soir-là, il couchait sans. Car il aimait se faire admirer. Charles paraissait plus jeune que son âge. Il avait un visage angélique et pur. De tout son corps, qui pourtant était grand, il en ressortait une grande délicatesse presque féminine. Il aimait s'occuper de son corps, passer des heures dans la salle de bain. Il venait de se fiancer à Mademoiselle de la Flore du Pin. Elle avait 18 ans et surtout l'aimait à la folie. Lui était surtout fier de se sentir aimé. Le lendemain matin, voulait faire connaître à ses amis M. de Genjou. Charles avait connu M. de Genjou à un concert. Il venait d'avoir 16 ans et M. de Genjou 30. Ils avaient tout de suite sympathisé, car s'étaient rendu compte qu'ils avaient tous les deux les mêmes choses. Ils avaient les mêmes goûts. Ils aimaient mutuellement la musique, la montagne et la recherche d'objets rares. Et ce qui attirait Charles, c'était surtout que M. de Genjou recherchait dans la vie une certaine pureté, une certaine grandeur.
Comment va la jolie petite Jeanne?
Beaucoup mieux, docteur, beaucoup mieux.
Ah, j'étais navré de ne pas être là l'autre nuit, mais j'avais une difficulté.
On me l'a dit.
Donc, enfin, il va montrer...
Vous avez bien fait d'appeler le docteur de paix.
À ses deux amis, M. de Genjou.
Vous savez, j'étais perdu.
Pendant que nos trois héros se rendent chez M. de Genjou, parlons un peu de la jeunesse de Charles, ou plutôt de son enfance.
Le docteur de Berne est un très bon médecin. Il a décrit ce qui s'était passé, il a fait ce qu'il avait à faire. Son père, c'est un très grand médecin.
Avait eu une enfance solitaire entre sa mère et ses mondanités et son père et ses affaires. Il était fils unique et avait jusqu'à 10 ans n'avait eu qu'un précepteur. Il ne savait pas jouer avec des enfants de son âge. Il aimait passer des heures dans sa chambre, assis en tailleur. La journée entière, à faire rouler des petits camions. Il se racontait pendant des heures et des heures des histoires. Une de ces histoires qu'il se racontait était celle d'une famille de milliardaires qui possédait des camions. Pendant 3 ans, il se raconta l'histoire de cette famille et en faisant rouler ses petits camions autour de lui. Cette famille, qui était très riche, passait son temps à rechercher, à conquérir le plus de choses possible. Charles était un rêveur, mais un rêveur qui ne connaissait pas la poésie, ne voyait que le côté pratique de la vie, mais inconsciemment, il se recherchait, il en recherchait beaucoup, car malgré lui, il recherchait ce que dans la vie, une certaine pureté, un certain idéal, une certaine grandeur. Ce grand idéal, il se forçait à le trouver dans la façon et les moyens d'acquérir des richesses. Charles vivait toujours seul, à force de vivre seul, et comme il faut porter son affection sur quelque chose, Charles porta son affection sur lui-même. Il passait des heures à se regarder dans la glace, à s'admirer, à se contempler. Il aimait son corps, à la peau si douce, si délicate. Sa personnalité s'était divisée en 2 personnes. L'un était lui et l'autre le spectateur. Lorsque dans sa chambre, il parlait seul, c'était pour l'autre, le spectateur. Il se regardait et s'entendait vivre. Il devenait l'acteur qui jouait la vie de Charles. Il était le spectateur qui regardait la vie de Charles. Mais puisqu'il était un acteur qui jouait la vie de Charles, ce n'était pas vivre la vie de Charles, la propre vie de Charles. Donc Charles ne vivait pas, il n'avait pas de vie propre, puisque sa vie était de jouer un personnage et de se regarder jouer. Qui s'ennuyait, il prit dans la bibliothèque un livre. Ce livre était un livre très ancien et rare. Il se nommait Le manuscrit des miracles de Notre-Dame. Il ouvrit le livre au hasard et tomba sur une gravure colorée, intitulée Ave Maria, salue la Vierge, une reine en prière devant la Vierge. Charles, pour la première fois de sa vie, fut saisi. Une œuvre d'art. Lorsque ses yeux se portèrent sur la gravure, son corps battit très fort, et le chaud à la tête, sa gorge serrait, il eut envie de pleurer. Une étrange sensation de grandeur et de bien-être s'empara de lui. Il se sentit léger, il semblait planer. Le monde n'existait plus, il n'y avait que la gravure et lui qui venaient de rencontrer. La beauté, un monde nouveau s'ouvrait pour lui, celui de la recherche de la pureté, du beau. Un monde nouveau s'ouvrait pour lui, celui de l'art. Au bout d'un moment, il eut envie de mourir, car il se disait qu'il ne pouvait plus supporter de vivre maintenant qu'il avait vu la perfection. Il prit le livre et l'emmena dans sa chambre. Désormais, chaque matin, il ouvrait le livre et contemplait la gravure. L'art venait de faire un miracle. Pour la première fois de sa vie, Charles aimait autre chose que lui-même. Il venait d'avoir 15 ans. Je ne vais pas vous décrire cette gravure, cher lecteur. Quoi que j'ai né une reproduction sous les yeux, sous forme de carte postale distribuée par Terre des Hommes. Mais si vous désirez la voir, il vous suffit d'aller à la Bibliothèque nationale et de demander le manuscrit des miracles de Notre-Dame. À partir de ce jour, Charles alla tous les après-midi dans les musées pour rechercher la sensation du beau. Les tableaux, les gravures qu'il aimait le plus, qu'il attirait le plus, étaient ceux du 11e, 12e siècle. Certes, il eut de grandes sensations, mais cela n'égala jamais celle qu'il avait eue la première fois. Charles ne voyait le beau que dans un tableau, une gravure. Il ne voyait pas le beau ailleurs. Il ne voyait pas. Il ne pouvait pas reconnaître la beauté dans la vie, ni dans un paysage, ni dans un vrai visage de jeune fille. Tout ça ne lui représentait le beau, la beauté. Pour lui, le monde n'existait pas. Il ne se rendait pas compte que les sujets, les tableaux qu'il admirait étaient décrits, étaient faits d'après des modèles trouvés dans la vie réelle, même si un sujet est irréel. Pour le représenter, on se base sur une chose réelle. Exemple, pour peindre un visage d'ange, on prend pour modèle un visage humain. L'art, les arts, pour s'exprimer, même si le sujet est irréel, se base sur la vie. Même si l'écrivain se base sur le réel, pour s'exprimer, même si ce qu'il veut représenter ne l'est pas. Pour construire son histoire, il se sert de mots, et ces mots sont déjà existants dans la vie. Il représente et définit quelque chose que les gens connaissent déjà. C'est la seule façon de se faire comprendre que d'employer des mots et des signes, des sons qui sont déjà une signification pour les autres. Sauf bien sûr pour des œuvres abstraites. Là, l'artiste exprime des sensations pures, sans but. Cela suffit pour ce sujet.
On voulait terreur ? Salaud l'aviron ! En garde l'aviron ! Lâche ! Traître !
Malgré la recherche du beau, sa vie n'avait pas changé. Il continuait à s'aimer lui-même.
Je suis Richard Cœur de Lion, l'orgueil de la faculté. Je vais te goûter en Jérusalem. Sarrasin fidèle.
Que très peu de rapports avec ses camarades. De préférence, il s'isolait. Ce qui intéressait les autres personnes de son âge ne l'intéressait pas. Ou plutôt, le troublait. Car il se rendait pas compte comme les autres.
Ils sont vraiment négus.
Les autres,
qu'est-ce que tu crois,
aimaient rire, chahuter, faire du sport. Lui aimait la solitude, le calme. Il aimait rester dans ses pensées. Il avait des difficultés à suivre les cours. Son imagination le menait loin du lycée. Il n'aimait que les choses futiles. Le sujet des leçons ne pouvait pas intéresser un être comme lui. Le professeur le considérait comme un élève rêveur et paresseux. À 16 ans, il ne connaissait pas les filles. Quelquefois, il entendait un camarade parler de ce sujet devant lui. Il se sauvait. Il se sauvait parce qu'il ne savait pas pourquoi, mais ça le troublait beaucoup. Il croyait que son trouble provenait de la honte de son ignorance. Pour lui, les mots n'avaient pas de pudeur.
Arrière, Morico, je suis Richard Cœur de Lion, l'orgueil de la chrétienté. Je vais te goûter hors de Jérusalem. Sarrasin fidèle.
Seule la honte de ne pas savoir le sens des mots le troublait beaucoup. Comme il ne connaissait et n'aimait que son corps, il avait eu certaines sensations solitaires avec son corps.
Qu'est-ce que tu crois ?
Se rechercher avec cette seule expérience la définition de certains mots. Cela ne tombait pas toujours juste, ce qui fait qu'à 16 ans, il ne connaissait pas grand-chose, ou très peu, ou que ce qu'il croyait savoir sur ce sujet était loin de la réalité.
Thank you.
soir, son père lui ordonna d'aller à un concert. Charles alla à ce concert sans grand entrain. Chose rare pour un solitaire, la musique ne l'avait qu'à peine effleuré. Arriva en avance, s'assit dans les rangs du milieu. À sa droite se trouvait un homme d'une trentaine d'années. Il était grand, mince, presque sec. Il portait un élégant smoking noir. Son visage reflétait une sévérité et une certaine élégance. On jouait ce soir-là en première partie la valse de Ravel. Charles ne connaissait pas cette œuvre. Lorsque l'orchestre entama les premières mesures, Charles fut surpris, irrité, à l'impression de recevoir par bride la musique, de ne pas pouvoir l'attraper, accrocher les sons. Ceci l'irrita beaucoup. Et puis, au bout de quelques minutes, son oreille s'apprivoisa, ou plutôt apprivoisa les sons, et qui semblaient se faufiler, couler avant d'entendre le tympan de l'oreille. Tout à coup, il sentit son corps envahir par la musique, ou plutôt par ce qu'il croit être quelque chose d'indéfinissable, d'impersonnel, qui semblait représenter la musique. Il fut troublé. Ce trouble était mêlé d'effroi et d'angoisse tout à la fois. Il ne savait plus où il en était. Il voulait rire, pleurer tout à la fois. Il avait envie de valser et à la fois, il y avait dans la musique quelque chose qui vous empêchait de vouloir, de pouvoir valser. Dans cette valse, il y a quelque chose d'angoissant, de lancinant. On a l'impression, c'est d'être ivre. Ou plutôt que la musique vous drogue. Charles était assis dans sa chaise, droite, raide, il ne bougeait pas. Il en sentait en lui un trouble, une fièvre. Son visage, ses mains étaient blancs, pâles comme du marbre. Ceci le rendait encore plus beau. Le monsieur qui se trouvait à la droite de Charles, machinalement, tourna pour voir de son côté. Il se fut pris par la beauté du profil de Charles. Sa pâleur rendait son visage lumineux, irréel. Ce monsieur fut ébloui. Il avait l'impression de contempler un buste grec qui représentait la tête de la Fanluciada d'Angio. Il avait vu à Rome au Musée National. Cela le troubla beaucoup de comparer le visage de ce jeune garçon à un visage féminin. Ce beau visage semblait si ému, si envahi par la musique, il en fut ému de peur de le trouver. Le jeune homme n'osa pas le regarder trop longtemps. Lorsque l'œuvre fut finie, Charles eut l'impression de sortir d'un rêve. Son corps fut envahi par une grande tristesse. Ses yeux se mouillèrent. Il eut toute la peine du monde à revenir à la réalité. Ce n'était qu'un léger bruit qui le fut sursauter. Il venait de faire tomber son programme qu'il tenait à la main. Il voulait se baisser pour le ramasser, mais comme ses membres étaient encore ankylosés, il le fit avec beaucoup de difficultés. Le monsieur d'à côté, voyant la chose, le ramassa et le tendit à Charles. Charles se troubla. Le monsieur lui dit, semblait troublé, ému. Charles rougit. C'était la première fois qu'un inconnu lui parlait. N'ayez pas honte, c'est normal d'être troublé dans un concert. Cela vous a-t-il plu? Le monsieur sourit. Et ce sourire semblait si bon que Charles fut moins troublé. Je ne sais pas. J'ai eu l'impression d'être envahi par quelque chose d'étrange, d'indéfinissable. Oui, je comprends. La valse de Ravel a un côté qui trouble, enivre en même temps. Chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression de voir un homme dans une sorte de bal. Il est ivre. Il se sent transbahuté, bercé par la musique qui l'envahit. Cette musique qu'il entend d'une façon confuse, incomplète. Il est poussé, tiré par cette musique. Et aussi les gens qui l'entourent, tout tourne autour de lui. La salle, les tables. Pour lui, il se trouve comme dans un bateau. Un bateau dans une tempête, un bateau ivre. En marchant avec des difficultés, à trouver son équilibre. Le plancher semble bouger sous ses pas. N'ose pas regarder les autres. N'ose pas regarder les lustres au plafond, car ça lui donne la nausée, le vertige. Les personnages qui l'entourent semblent avoir des visages en caoutchouc. Ils s'allongent, s'arrondissent sans cesse. Ne comprend pas ce qui lui arrive, ce qu'ils disent. Il n'entend que la musique. C'est la musique qui l'entoure et reste tout à la fois confuse. À la fin, la musique devient, pour lui, de plus en plus saccadée et confuse. La foule, les danseurs le sortent du bal, le soutiennent pour qu'il descende des escaliers et le jette dans un fiacre. Voilà ce que je vois lorsque j'écoute la valse. Charles sourit. Cette description l'amusa beaucoup. Le monsieur sourit et dit, vous devez me prendre pour une personne irrespectueuse, mais je n'y suis pour rien. Certaines œuvres musicales me font penser à des scènes, à des images. C'est malgré moi, j'y suis pour rien. Cette franchise plus beaucoup à Charles. Vous savez, jeune homme, je crois que vous avez suffisamment entendu de musique aujourd'hui. L'émotion, c'est bon, mais à petite dose, si vous désirez, sortons avant l'enfin de l'entracte. Et ils sortirent. Le monsieur demandait de quel côté allait Charles. Il lui proposa de l'accompagner. La nuit était douce, noire et douce et calme. Les rues étaient désertes, seul le bruit de leurs pas troublait le silence. Charles se sentait bien. Une douce musique envahit son âme. Pour la première fois, il se sentait bien avec une personne. Le monsieur était troublé et ému. La présence de ce jeune homme auprès de lui le gênait. Vieux monsieur lui dit, il faut que je me présente. Je suis monsieur de Jean-Jus, Jean-Alexandre de Jean-Jus. Charles se le présenta à son tour. Monsieur de Jean-Jus était issu d'une famille de haute noblesse. Il avait été élevé par sa mère, car son père était mort avant sa naissance. Comme Charles, son enfance avait été très solitaire. Et maintenant, il vivait à moitié ruiné, car ne travaillait pas. Se contentait de vivre avec la fortune que lui avait laissée sa mère en mourant. Il avait vendu l'hôtel particulier de sa famille pour prendre un petit de pièces où il avait entassé le plus de meubles et d'objets possibles. Il n'avait jamais rien fait, ni entrepris quoi que ce soit, sauf une chose. Il avait écrit un livre il y a de cela 4 ou 5 ans. L'idée lui était venue de mettre sur le papier une petite histoire qui traînait depuis quelque temps dans sa tête. Sa mère, un mois avant de mourir, fit éditer le livre à compte d'auteur. Il y eut seulement 500 exemplaires en édition de luxe cartonnée. L'ouvrage n'eut aucun succès. Il se nommait, si je me souviens bien, L'au-delà du commun. C'était l'histoire de quelques jeunes gens. Ils étaient par groupe de deux. Un groupe représentant le mal et l'autre le bien. Les personnages, Marc et Florent, étaient le mal. Charles et Alexandre le bien. Tous les personnages vivaient en dehors du commun. Mais je ne vais pas vous raconter l'histoire puisque vous êtes en train de la lire. Monsieur de Jean-Jus, ou plutôt Alexandre, était beaucoup amusé à écrire cette histoire. Il en eut beaucoup de joie et beaucoup de peine à cause que son livre pas de succès. Puisqu'il n'avait aucune occupation, à quoi s'occupait-il dans sa vie? Il passait son temps à rechercher l'absolu, la perfection du beau. Cette recherche, il la faisait à travers les arts, tous les arts. était d'une matière délicate et avait les fibres nerveuses sensibles. Cette sensibilité lui permettait de s'émouvoir sur la beauté. Chaque fois qu'il voyait, entendait ou lisait quelque chose de beau, de délicat, cela le faisait pleurer et lui donnait envie de mourir. Cette sensibilité lui permettait d'apprécier les arts, tous les arts. Il passait sa vie dans les musées, concerts, théâtres et bibliothèques pour y rechercher la beauté, la perfection. Depuis son enfance, il menait une vie solitaire. Il n'aimait pas la compagnie des autres hommes. Il se sentait mal à l'aise avec eux. Il les trouvait grossiers et vulgaires. Il se sentait en part, en dehors de cette société. Il se disait plus vulnérable que les autres. Alors il s'était fait un petit monde à lui avec ses œuvres d'art et aussi son savoir. Alexandre ne connaissait pas les femmes, ou plutôt n'avait pas cherché à les connaître. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.